Rendre visible, c'est un défi, ça. Mettre la lumière sur ce qu'on ne voit pas. Des crimes, par exemple. Des crimes ciblés, systématiques, silenciés contre les femmes. On n'en parle pas, on les voit pas. À moins de faire preuve de tactique. En voici deux ou trois. Marteler les faits pour qu'on ne puisse plus dire qu'on savait pas. Le meurtre avant-hier d'une créatrice de 35 ans, Julie Douy, par son ex-mari. Et ces mots qu'on a pu entendre, rapportés par la presse. Ce drame était prévisible. Julie nous avait dit, il va finir par me tuer. Il était toujours là, à la menacer. Ça pique. Donner des chiffres, 30 femmes assassinées depuis le 1er janvier de cette année. Passer à l'action, par des verbes d'action justement, comme visibiliser, tiens, contre l'invisibilisation, ça pique. Hein. En parler tout le temps, pas seulement le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ou encore le 8 mars, tout le temps. Parler en acronyme pour ces associations qui font tant CIDFF, FNSF. MFPF, montrer ses crimes par le truchement du cinéma, par le film si important de Xavier Legrand par exemple jusqu'à Lagarde, dont la mise en avant a permis de voir justement, et puis mettre des noms, même si ça pique, ne plus parler de crimes, de meurtres ou d'assassinats mais de féminicides, de mariticides ou d'uxoricides, puisqu'ils sont si courants, hélas, pourquoi ne pas les entendre dans le langage courant.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, que rend visible mon invité d'aujourd'hui. Elle est écrivain et dans son dernier livre, Mes bien chères sœurs, publié aux éditions du Seuil et en librairie demain, elle présage de l'extinction du patriarcat et de l'avènement d'un monde nouveau. Bonjour Chloé Delhomme.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là
ce matin.
Il y a un mot pour rendre visible ce dont je viens de parler. Effectivement, ce mot c'est uxoricide et c'est vous qui me l'avez soufflé.
Bah oui, uxoricide c'est la femme, c'est le meurtre de la femme, de l'épouse, et c'est un terme qu'on utilise pas, et on utilise plutôt drame conjugal. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a des associations comme Féminicide par ex-compagnon et compagnon qui travaillent sur la question sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je crois qu'on appelle féminicide, on appelle uxoricide, on appelle un chat. Et plus cette horrible appellation de « il était fou d'amour » ou « drame conjugal ».
Quand est-ce que vous l'avez appris, ce mot ? En quoi est-ce qu'il résonne ?
Alors, moi, je l'ai appris assez tardivement. C'est arrivé à ma mère. Moi, j'ai perdu mes parents comme ça. Ma mère a été assassinée par mon père et il s'est suicidé ensuite. Donc, j'étais sensibilisée à la question à l'âge de 10 ans. Le terme uxoricide, je l'ai trouvé, en fait, en le cherchant. Donc, il est vraiment pas très usité. Et je pense que c'est important d'utiliser parce que c'est pas un drame conjugal.
Et vous qui êtes romancière, qui interrogez la langue, et depuis toujours, Chloé Delhomme, comment fait-il qu'il nous soit si peu familier, ce mot, alors qu'il correspond à une réalité très présente?
Bah, c'est la magie de l'euphémisme. C'est qu'on va cacher. Puis je crois qu'il y a quelque chose aussi. C'est qu'en France, pendant assez longtemps, l'adultère était considéré comme un délit en droit. Du coup, le crime passionnel était une circonstance atténuante. Et culturellement, entre ça et la lourdeur du patriarcat, oui. Le fait que voilà, l'homme a tous les droits sur son épouse et femme.
Ce que ça dit, finalement, c'est à nouveau l'invisibilisation des femmes, y compris dans le langage. Pourquoi, Chloé Delhomme, les femmes ont-elles de tout temps et dans toute discipline été reléguées au second plan, voire effacées ? Ce qui est encore plus dramatique pour le coup et intéressant.
Ben, je crois que c'est vraiment la faute au patriarcat. Enfin, on est dans une société où l'homme est dans sa toute-puissance, où il y a une suprématie du mâle blanc. Et où la femme est vraiment infériorisée, on s'en rend compte à tout niveau, toujours encore.
Quand est-ce que vous en avez pris conscience de ça, vous ?
Petite, parce que j'étais dans une famille où, indépendamment du problème de ma mère, enfin, je veux dire, déjà, un uxoricide, ça arrive pas comme ça, soudainement, le type se réveille. Avant, il y a des coups, il y a des menaces. Et il y a des plaintes qui sont pas prises en compte aussi. Donc il y avait aussi cette sensation d'impunité de l'homme dans cette situation. Et puis après, je m'en suis rendu compte parce que j'étais dans une famille assez beauf, avec du coup un rapport masculiniste très très fort et beaucoup de sexisme, et des femmes qui étaient dans mon entourage assez contentes en fait d'être en dessous.
Le patriarcat, il sévit aussi dans votre métier, dans votre la littérature.
En littérature, on n'est que 30% d'autrices. Et puis, par contre, ce qui est bien, c'est qu'historiquement, ça y est, l'Académie française a cédé. Donc, on peut dire autrice sans... Mais c'est un métier, effectivement, où on a l'impression que les femmes sont très représentées. Mais en fait, les femmes sont les lectrices. Il y a 80% de lectrices. Mais sinon, sur les autrices, on n'est pas si nombreuses.
Pourquoi, à votre avis, Chloé Delhomme, le sexe féminin inquiète-t-il le patriarcat, au point que ce dernier n'est toujours eu de cesse de vouloir le dominer, le contrôler, le limiter, le punir?
Ben, je pense que nous avons affaire à une société où la femme ne peut pas être considérée comme légale parce qu'elle serait peut-être meilleure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle évoque, en fait?
Il y a toujours ce vieux truc de Lilith. Hein. C'est la contre-Ève, c'est la première femme, celle qui a dit non. Donc, je crois que c'est ça. C'est la puissance qui inquiète face au pouvoir.
Dans Mes Bien Chères Sœurs, vous écrivez que depuis le retentissement de l'affaire Weinstein, le patriarcat serait désormais en cours d'extinction. Vous en êtes certaine?
Alors, je crois que la fin d'un monde s'annonce par des signes contradictoires. je crois que nous sommes à l'orée d'une époque historique. Nous, on est en plein dedans. Ça commence. Il va peut-être falloir une dizaine d'années pour nettoyer. Mais si on fait le parallèle avec, par exemple, l'évolution des mœurs sur les gays, avec le mariage pour tous, comme les choses ont bougé dans les mœurs, je pense qu'on est vraiment à l'orée d'un gros bouleversement, et que ce bouleversement est amorcé.
Bouleversement de la façon dont on pense la relation entre les sexes?
Exactement. C'est une question de mœurs et d'éthique cette fois-ci. C'est pas une révolution qui va se voir par des lois ou par des... Oui, je pense que c'est une révolution intime et une révolution de mœurs.
Mais qui a donné lieu déjà à un certain nombre de backlash à une diabolisation de discours féministes, y compris de la part de certaines femmes qui ne soutenaient ni le mouvement MeToo, ni le hashtag Balance ton port. Comment vous l'expliquez ça? Et comment vous l'avez vécu?
Disons que la liberté d'être importuné.
Alors par exemple, cette tribune effectivement dans Le Monde sur la liberté d'importuné qui avait été signée par nombre d'actrices et d'intellectuels.
Oui, ce sont des personnes qui ne prennent pas le métro et qui ne vont pas au bureau, donc qui ne sont pas confrontées à la réalité. C'est comme ça que je l'ai compris.
Qu'est-ce que c'est la sororité, Chloé
Delhomme? La sororité, c'est l'état de sœur. C'est le fait d'être dans une solidarité très particulière entre femmes, avec une sorte de lien indéfectible et une solidarité à toute épreuve.
Et quelle est l'origine de ce mot assez méconnu, lui aussi, et souvent jeté aux orties, dont vous faites, pour reprendre vos mots, un principe actif?
Oui, j'en fais même une éthique de vie. Eh bien, c'est un mot qui vient de sœur, tout simplement, qui vient de sœur. C'est formé comme fraternité, sororité. Simplement, pendant très longtemps, le mot n'a pas été utilisé, il était même caché. Parce que à partir du moment où le concept existe, on s'en empare, et si les femmes se mettent à être solidaires, oulala,
oui,
ça devient dangereux pour le patriarcat.
Alors l'histoire de ce mot, elle dit beaucoup aussi.
Oui, c'est un mot qui a été qui nous revient du 16e. Rabelais l'a ressorti d'ailleurs pour parler. Enfin, au début, on parlait de la sororité pour les couvents, les communautés de nonnes, et puis après, ça s'est élargi sur les femmes en général. Et c'est un terme qui a été qui est revenu dans les années 70, mais qui a été mis longtemps sous le tapis.
J'écris depuis 20 ans. En France, aujourd'hui, les écrivains, c'est seulement 30% des femmes. Le langage a toujours été une chasse gardée. Qui possède le langage possédera le pouvoir. La vérité des faits est dans Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir. La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui sera le maître, un point c'est tout. Je suis maîtresse en ma parole et pour le partage du pouvoir. Le langage, le choix de chaque mot relève du politique. La question est de savoir comment s'en emparer. C'est ce que vous écrivez dans, oui, Mes Bien Chères Sœurs, Chloé Delhomme. En quoi la sororité pourrait-elle être un moyen de s'emparer du pouvoir, justement?
Eh bien, la sororité, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement horizontal et pas vertical, contrairement au patriarcat et au matriarcat. Moi, je propose pas qu'un matriarcat vienne remplacer le patriarcat, ça ne servira à rien. C'est un lien horizontal et par conséquent, ça peut donner une force centrifuge qui fait péter le plafond de verre. Et ça, on en a bien besoin. Je crois que c'est une forme inédite et puis surtout, il n'y a rien qui pourra la contrer, la sororité, à partir du moment où elle est en marche.
À partir du moment où elle est en marche, mais là, on en est loin. Chloé Delhomme, ça marche pas très bien. Et votre dernier roman, Les Sorcières de la République, roman d'anticipation, qui plus est, en témoignait quelque part déjà.
Bah, c'était une dystopie où, par absence de sororité, c'était la catastrophe.
La dystopie étant l'utopie catastrophique.
Voilà,
justement.
Donc évidemment, j'avais essayé de montrer qu'on avait besoin de sororité, mais en faisant le truc en creux. C'est-à-dire que par absence de sororité, les filles finissaient par tuer tout le monde et s'entretuer également.
Ambiance,
une salle, une ambiance. Mais en fait, je pensais avoir été comprise, mais pas du tout, parce qu'on ne peut pas faire une théorie en creux. Donc du coup, j'ai décidé de prendre le problème frontalement et de montrer les bienfaits de la sororité dans le dernier livre.
En même temps, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à cette rivalité entre femmes, qui est aussi un fantasme patriarcal?
Qui est un fantasme patriarcal, mais où il faut avouer qu'on a beau avoir été très très conditionné, la femme est quand même souvent sujette au syndrome de la Schtroumpf. en fait.
Allons donc.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à vouloir être la chouchoute du groupe, être la seule fille de la bande de garçons. Le plafond de verre s'explique aussi par ça un peu. Hein. Mais donc je pense qu'il y en a une responsabilité individuelle très très forte. Et c'est à chacune de faire en sorte de respecter un pacte de non-agression d'emblée, d'être dans la bienveillance, de pas avoir peur de l'autre. Parce que pourquoi les femmes sont en rivalité? Parce que leur position est précaire. On n'a pas notre place dans cette société.
Oui.
Donc du coup, on est toujours complètement sur les dents, on est dans la terreur, on a peur de l'autre. Et ça, je pense qu'il suffit de l'enlever pour que ça se passe beaucoup mieux.
Puisque vous allez sur le terrain politique, la sororité est-elle seulement possible au sein d'une économie capitaliste, Chloé Delhomme?
Bah, je pense qu'elle est possible et que c'est elle qui peut faire sauter l'économie capitaliste. C'est-à-dire que pour moi, le patriarcat, le capitalisme est le fils aîné du patriarcat. Pour moi, le patriarcat est vraiment à la source de tout. Le patriarcat s'invente avec Moïse qui dit « cette terre et ces femmes sont à moi ».
De quelle révolution est-ce que vous rêvez aujourd'hui?
Bah, d'une révolution sororale avec du coup une espèce de parité parfaite qui se poserait et puis la fin des violences envers les femmes. Mais là, on a le droit d'être utopique.
Celle qui est dans l'utopie, qui n'aime pas la révolution et qui n'est la sœur de personne, peut-être que vous la connaissez dans cette émission, elle est fille unique avec tout ce qui va avec. C'est la culture et son actualité qui se fout du collectif. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 6 mars?
My name is Arata Isozaki, architect.
Isozaki à tout prix. Le japonais Arata Isozaki, 87 ans, a été désigné hier comme le lauréat 2019 du prix Pritzker, considéré comme le Nobel de l'architecture. Né dans le sud du Japon en 1931, profondément marqué par la Deuxième Guerre mondiale, l'artiste japonais n'a cessé depuis de vouloir créer des ponts entre l'Orient et l'Occident. Connu pour n'avoir jamais voulu s'enfermer dans un style architectural, on lui doit notamment le MoCA, le musée d'art contemporain de Los Angeles, ou le Palau Sant Jordi, le stade olympique de Barcelone.
Martine à l'école.
Martine Orpheline, scénariste de la série, des albums de Martine. Jean-Louis Marlier est mort le 28 février, vient-on d'apprendre, par son éditeur Casterman. Il avait 55 ans, fils de Marcel Marlier, illustrateur historique de cette série si souvent parodiée. Jean-Louis assurait l'écriture des scénarios des aventures de la célèbre gamine à queue de cheval depuis 1997. On lui doit 12 des 60 albums publiés. Paix. Du Love à la MEP, la Maison Européenne de la Photographie à Paris inaugure aujourd'hui Love, grande rétrospective consacrée à l'œuvre de Ren Hang, l'un des artistes chinois les plus influents de la jeune génération, étoile filante de la photographie. Hang s'est suicidé en 2017 à l'âge de 29 ans, à travers 150 clichés à la sensualité trouble. L'expo propose une plongée dans un entrelacs de bras et de jambes, des vagues de fesses et de visages en nénuphar, interrogeant la relation entre identité et sexualité dans une société chinoise encore prisonnière de ses tabous. Et mercredi de féminin, séance à la Bieng, car aujourd'hui dans les salles, on suit la piste du mystère Henri Pic, la comédie policière de Rémy Besançon, adaptée du best-seller de David Fuenquinos et portée par notre invité d'hier, Fabrice Lucchini. On s'attaque à La Flore, volet 1, première partie du film Fleuve de 14h, signé Mariano Lignas, qui sortira en 4 temps avant le 3 avril. Et sinon, on fonce sur Funan, le très beau film d'animation de Denis Do, qui nous replonge au cœur du Cambodge des Khmer Rouges. Et l'autrice, Chloé Delhomme, invitée de Boomerang ce matin, pour mes bien chères sœurs, un court texte qui se lit comme une sorte d'appel, de manifeste, dans lequel on vous entend scander certaines formules. Je pense notamment à cette façon que vous avez de répéter « j'écris de ». Qu'est-ce que ça veut dire « j'écris de » ?
Ah, c'était une sorte d'hommage parodique à Virginie Despentes.
À
King Kong Theory. Et puis parce que c'est très important de savoir d'où on parle dans un cas comme celui-là.
King Kong Theory qui s'ouvrait il y a 13 ans effectivement sur cette phrase « j'écris de chez les moches ». Alors pourquoi est-ce que c'est si important, Chloé Delhomme, de savoir d'où on parle?
Bah, moi j'ai précisé que j'écrivais de chez les ex-bonasses, parce que c'est important sur cette question du regard de l'homme sur le corps de la femme, et puis parce que c'était important que je prenne la parole en déconnant pas cette fois-ci, en fait, en étant pas, c'est pas déconner, c'est-à-dire qu'habituellement j'ai tendance à faire du surpoétique, et là je voulais vraiment être entendue clairement, donc tout a été posé et verrouillé le plus possible.
Écrire de chez les femmes, qu'est-ce que ça implique?
Ça implique qu'on est seul, je crois.
N'est-on pas toujours seul quand on écrit?
Non, pas toujours. On écrit avec beaucoup plus de morts qu'on ne croit. Disons que là, j'avais un problème sur la légitimité de ce texte, c'est-à-dire que prendre la parole en tant que femme, point barre, c'était un peu difficile pour moi. J'ai mis du temps à assumer le fait que je pouvais m'exprimer sur ces questions-là, en fait.
Pourquoi ? Comme si...
Bah parce que, à part le luxoricide, il s'avère que moi, j'ai pas eu de problème de violence conjugale ni de viol. Et c'est pas tant qu'il faut être violé pour prendre la parole, c'est juste que j'avais l'impression que j'avais pas des choses à dire qui étaient si importantes que ça, jusqu'à ce que je me rende compte que ce concept de sororité était pas appliqué du tout, et donc il fallait faire quelque chose.
Parler en tant que femme, écrire en tant que femme, de chez les femmes, est-ce que ça voudrait dire que pour vous, Chloé Delhomme, du moins la question se pose, il y aurait une écriture féminine ?
Bah, moi je crois que oui, mais je vais me faire taper dessus. C'est-à-dire
non, personne
que...
ne tape personne dans cette émission, je vous rassure.
Mais j'ai l'impression qu'on peut reconnaître. Alors après, ça veut rien dire. James Striptiri était une femme, mais il y a un type. Ça peut paraître essentialiste et ça c'est super flippant. Mais disons que moi, je sais que j'ai une sensibilité très féminine dans ma façon d'envisager l'écriture.
Oui, d'ailleurs, femme, c'est assez intéressant. Vous dites que c'est un mot que vous n'êtes jamais parvenu à déserter.
Non,
qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque du queer et tout ça, moi, je suis un petit peu traditionnelle.
Alors, le queer, c'est-à-dire ces théories qui donnaient la possibilité de sortir de ces cadres, de ces catégories masculin-féminin.
Et c'est vrai que je trouve ça super, mais j'arrive pas à l'appliquer pour moi. Je suis vraiment trop AFM, on appelle ça finalement.
Pourtant, ce serait une arme efficace contre le patriarcat.
C'est
le queer.
Une arme efficace et toute cette génération, ou même ceux qui sont plus âgés qui sont là-dedans, c'est super efficace. Oui. Je les soutiens à fond, mais j'arrive pas à me sentir corporellement impliquée.
Y compris en littérature, ça pourrait correspondre à quoi le queer en littérature ?
Le queer en littérature, on a Sam Bourcier, par exemple, qui avait fait La licorne qui pète.
J'aimerais qu'on y revienne, moi, à la littérature et à l'écriture, parce que je crois, Chloé Delhomme, que ce sont deux choses auxquelles vous avez été sensibilisée très tôt. Petite, votre mère vous faisait écrire.
Oui, c'est-à-dire que j'étais nulle en dessin et j'étais un peu pénible, donc du coup, elle me faisait faire des poèmes. Aujourd'hui, on va faire l'octosyllabe. Allez hop, c'est parti.
Il en reste quelque chose de cette petite fille ?
Il en reste les vers blancs dans mes romans, oui. Il reste un rapport à la métrique qui est très, très, très développé.
Une sensibilité à la poésie,
oui.
Au rythme, à la métrique, ça voudrait dire quoi ?
Au nombre de pieds. À la scansion.
Pour chaque phrase ?
Toutes mes phrases, je les passe au gueuloir à la Flaubert, moi. Si ça passe pas à l'oral, ça veut dire que la phrase est mauvaise, donc elle va à la corbeille.
À la Flaubert ou à la Racine ?
Plus Racine. Mais Racine, je sais pas s'il faisait gueuloir, lui. Mais Racine, c'est mon chouchou de chez les chouchous.
Allons donc.
C'est les alexandrins. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans la langue française. C'est la pureté absolue.
Quand l'avez-vous découvert ?
L'alexandrin, j'étais dans les livres de ma mère, j'étais petite, un petit peu comme Rimbaud. Je comprenais pas du tout le contenu, mais j'étais complètement emportée par la poésie scandée comme ça, les phrases, les vers qui étaient. C'était vraiment de la magie.
Ça veut dire qu'un bon texte, Chloé Delhomme, c'est toujours une affaire de rythme ?
Et un bon texte, c'est toujours une affaire de rythme, oui, je crois que c'est nécessaire.
Comme une musique, en fait.
C'est de la musique, la littérature, c'est de la musique.
Vraiment ? On va écouter de la musique tous les deux et parler de rythme avec Niagara. J'ai vu en 1990. Qu'avez-vous vu, vous, ce matin ? C'est une question que j'adresse aux auditeurs, aux auditrices de France Inter. En écoutant les mots de mon invité, vous êtes sur France Inter avec Chloé Delhomme. Quelque chose me dit que la révolution est en marche. On est mercredi.
Oh,
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors on est quelque part, il faut le dire tout de suite, entre Mercredi Adams, Amélie Nothomb et Béatrice Dalle. Le cheveu noir corbeau, l'œil vif, intelligent, intransigeant, cet air de moineau touchant qui ne se laisse pas compter fleurette pour autant, avec sa chemise à carreaux pailletés ce matin, ses colliers, ses médailles, cette touche de noir sur ses ongles et sur son eyeliner, insiste-t-elle, Chloé Delhomme, invitée de Boomerang pour Mes bien chères sœurs, ce livre dans lequel vous interrogez Chloé les suites possibles de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo et vos propos. Chloé, ils sont ceux d'une écrivaine française. Écrire en France, ou plutôt de la France, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour
ça
vous ?
Ça signifie qu'on est dans le pays de la gaudriole. Et c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'on est dans une culture où la vulgarité sexiste est considérée comme un trait d'humour national. Et je pense que ça joue énormément.
Vous pensez à qui, à quoi ?
Je pense par exemple à la sortie de route de Jean-Marie Bigard, à son humour en général et à sa blague sur le viol qui fait que bon bah il a été sanctionné au sens où il y a des dates de représentation qui ont sauté. Et je pense à l'humour potache en général qui pousse les hommes à pouvoir être tactiles et à faire des plaisanteries graveleuses.
Vous citez notamment cette émission de télévision où tout le monde s'est rendu à une époque qui s'appelait Cocorico Boy, c'est ça ?
Oui, c'est ça, Cocorico Boy, où il y avait la plémette du mois qui se foutait, enfin la plémette de la semaine, et où toutes les semaines, le samedi, devant la télévision française, les familles étaient attablées et regardaient une femme se dévêtir sous l'œil concupiscent de Jean Roucas. Ce qui nous donne un peu une idée de la catastrophe absolue. Et donc voilà, moi c'était dans les années 90, et donc je me suis construite comme femme devant Coco Boy avec Samantha Fox, sinon c'était un peu compliqué quand même.
Alors ça c'est assez intéressant, les vidéos de Samantha Fox, effectivement, vous les citez également. En quoi est-ce que ça vous a construit en tant que femme?
Disons qu'on est obligé de se construire en contre.
Qu'est-ce que ça implique sur votre corps, sur votre pensée, sur votre façon d'envisager le féminin?
Déjà, ça implique que quand on est gamine, le rapport au sein, il est un peu compliqué parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le corps qu'il faut. Et puis c'est le rapport du corps qui est touchable, qui est accessible à tous. Cette histoire de plémette qui se dévait pendant que tout le monde la tripote à la télévision, ça a un côté. Le corps de la femme ne lui appartient pas et accessible à tous, quoi. Ça participe de ça.
D'où ça vient, la gaudriole à la française, Chloé Delhomme ?
Alors, j'aurais tendance à dire que c'est du Rabelais mal digéré.
C'est typiquement français.
C'est typiquement français. Après, bon, c'est sûr que quand on voit ce qui se passe en Italie, on n'a pas trop à se plaindre culturellement à ce niveau-là. Mais, mais ça n'empêche que c'est quand même, c'est vieux comme le monde, c'est la madelon, c'est les jupons qui se soulèvent et les hommes qui roulent sous la table après avoir bien bu. C'est le petit vin blanc. C'est comme si le corps de la femme était disponible pour qu'on lui pince les fesses et les seins.
Quoi. Vous dites on se construit contre. En quoi l'adolescente que vous avez été s'est construite contre cela ?
Disons que moi j'avais tendance du coup à avoir presque un rapport asexué aux choses tellement ça me faisait flipper quoi. C'est difficile de se dire que c'est ça qui nous attend. Je pense.
On parle d'images qui sont absolument centrales et dans votre livre et dans votre façon de concevoir le monde et la littérature. Et j'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit. La manière dont les images forment l'inconscient et l'inconscient collectif. À vous entendre, la femme française reste victime de certaines représentations, de certaines injonctions. À quoi vous le mesurez, ça ?
Encore maintenant sur le comportement qui bouge pas. Enfin, je pense à la Ligue du LOL récemment ou à d'autres manifestations de ce style. Enfin, il y a La femme est toujours une sorte de truc fragile sur lequel on projette les fantasmes. C'est toujours une surface, c'est pas un être humain. On est encore dans une espèce de surface à projection, ce qui est un petit peu gênant et très dégoûtant.
Vous parlez d'ailleurs, et c'est assez passionnant, de l'usage des cosmétiques à un moment.
L'usage des cosmétiques peut-être aussi parce que j'ai trouvé dans une enquête que la France est le pays qui utilise le plus de produits couvrants. De poudre couvrante, et en même temps, vu que c'est aussi un pays où les femmes se font mettre sur la gueule, je me demande si ça sert pas à camoufler les bleus. Gros blanc.
En même temps, c'est fort ce que vous dites. Qu'elle ait développé une forme de tolérance aussi vis-à-vis de certains comportements masculins, la femme,
oui,
aujourd'hui.
Oui, on passe outre un tas de gestes déplacés, de propos déplacés, parce que c'est culturellement logique d'être dans ce bain de graisse.
Vous-même ?
Moi, c'est quand j'étais plus jeune, et puis il a fallu que je remette. Maintenant, j'ai tendance à faire plutôt peur malgré moi, et tant mieux. Donc du coup, j'ai pas souvent affaire directement à ce genre de comportement. J'ai eu plus jeune, il a fallu recadrer. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à neutraliser par l'humour, qui est C'est bien, on remet Coco à sa place avec t'es bien mignon, mais tu vas la ranger, et puis ça remet en place. Mais il faut quasiment neutraliser par le langage aussi.
Par l'écriture aussi, c'est ce que j'allais vous demander.
Aussi, oui.
Dans quelle mesure votre travail, votre œuvre, et je pense qu'on peut inclure mes bien chères sœurs dans votre œuvre tout entière, presque comme un projet littéraire, même s'il ressemble à un manifeste, ce livre, dans quelle mesure votre écriture vous a permis justement de résister à tous ces avatars du patriarcat, Chloé Delhomme ?
C'est vrai que moi j'avais commencé mon premier livre, Les Mouflettes d'Atropos, c'est déjà sur la question féministe en fait. Mais il remonte à il y a plus de 20 ans. Et c'est une lutte... disons que c'est très, très difficile d'être une femme dans ce pays, quoi qu'on en pense. Et du coup, en tant qu'écrivain, c'est important de se battre pour le statut de la femme, voilà. Ça m'est venu tardivement sur la nécessité d'écrire ce livre, mais j'avais besoin, je crois, d'un cri de ralliement pour les frangines, parce que toute seule on s'en sort pas, parce qu'on est souvent toute seule, parce que quand les femmes prennent la parole, parfois c'est pour dire qu'on doit se débrouiller. Et je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut beaucoup de solidarité et ça peut paraître un peu gnangnan, un peu premier degré.
Le livre ne l'est pas. Hein.
Mais j'avais besoin de ce cri de solidarité pour qu'on fasse corps parce que c'est pas facile.
C'est un court texte que vous avez écrit pour l'occasion, pour cette émission, sur les relous, les lourds, en fait, Chloé Delhomme. Et j'aimerais que vous nous le lisiez pour conclure cette émission.
Je voudrais vous parler d'une catégorie d'hommes dont le statut se modifie depuis l'apparition de MeToo. Une catégorie d'hommes qui se situe entre le harceleur et le séducteur, pas vraiment oppresseur et pourtant oppressant, j'ai nommé le relou. Fils du patriarcat et de la gaudriole, le relou est en France une espèce répandue, quasi domestiquée. Le relou n'est pas un mâle alpha qui vous met la main sur la cuisse en plein abus de pouvoir. Le relou est un rebut du génie de la drague à la française, dont le rayonnement international doit faire notre fierté. Il est, pour les autres couillidés, inoffensif. C'est pour cela qu'il est toléré, en dépit du ton lipidique de son humour. Le relou n'est pas perçu comme agresseur, c'est un prédateur édenté. Stupidement insistant, outrageusement tactile, mais au fond pas méchant en tout cas, pas à jeun, une brave bête. Jusqu'ici préservé par les us et coutumes du folklore patriarcal local, mignonne allons voir si la rose, la rirette, je te prendrai nu dans la cime Camille, dit camion, le relou sévissait en toute quiétude. Il était libre d'importuner. Depuis le hashtag balance ton porc, quelque chose a changé au pays du fromage et du féminicide. Le statut du relou est passé de « voyons, on fait comme ça chez nous » à celui de porcelet. Le harceleur, comme l'agresseur, tombe sous le coup de la loi. L'impunité s'est terminée, les véras sont démaquillées, les loleurs ne feront plus carrière. Pour le relou, c'est autre chose. Catégorie éthique, espace moral, mais pas légal, us et coutumes, changement des mœurs. Les normes sociales évoluent, le relou est disqualifié. Le relou peut-il s'adapter ? D'un véra fait-on une licorne ? Questionner les signes d'extinction. Je voudrais vous rappeler que la fin d'une espèce est en train d'arriver. Je voudrais que chacune et chacun soit conscient que le patriarcat est en train de tomber et que c'est dans la joie que nous dansons dessus.
Une joie, une danse. Merci infiniment, Chloé Delhomme, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Mes bien chères sœurs sort demain aux éditions du Seuil, que c'est un texte important, puissant, jouissif. J'invite par la même occasion les auditeurs à se plonger dans Vos sorcières de la République, votre dernier roman paru il y a 3 ans chez le même éditeur, et dans toute votre œuvre en réalité, d'une immense cohérence et d'une expérimentation assez jubilatoire, je dois dire tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. enters the shell and we are the nut. A tie or a hand or choke of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? We can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the favorite to the egg. I'm not getting let alone.
Show the ferret to the egg, I'm not.